série, bienvenue dans Sérivore. Maintenant, choisissez votre camp.
Devenir un Cereal Lover
ou un Cereal Eaters.
Bonjour les Sérivores. Aujourd'hui avec David, nous allons vous parler de la série Ma Sorcière Bien-Aimée, alias Bewitch en version originale, une série télé américaine en noir et blanc à ses débuts, puis colorisée. Une série qui mêle comédie et fantastique. Cette série a été multifusée bien sûr sur les chaînes françaises et est devenue culte. Et elle a été créée par Saul Sachs. Tu peux nous parler un peu plus de la série, David ?
Oui, c'est une série qui a été produite des années 64 à 72. Et c'est une série qu'on peut bien sûr classer comme comédie, humour et fantastique. La série originale est composée donc de 8 saisons, soit 254 épisodes de 25 minutes.
Donc une série quand même assez conséquente. Alors cette série raconte l'histoire de Samantha, membre d'une éminente société de sorcellerie, qui a vécu pendant plusieurs siècles loin des humains. Et un jour, cette ravitante sorcière va tomber amoureuse et épouse Jean-Pierre Stephens, Darren Stephens dans la version originale, un mortel qui travaille dans l'agence de publicité McMahon & Tate. Bah, la vie de Jean-Pierre est bouleversée lorsque sa femme va lui avouer le soir de leur nuit de noces qu'en fait elle est une sorcière. Samantha n'a qu'à bouger son nez pour lancer un sortilège. De plus, sa mère Andorra et son père Maurice et tous les membres de la famille pratiquent la sorcellerie, ce qui n'arrange pas du tout le gendre. À la demande de son mari qui veut une épouse normale et refuse la magie chez lui, Samantha va lui promettre de ne plus utiliser ses pouvoirs et de vivre comme une humaine. Mais voilà qu'Andorra, bien sûr la mère de Samantha, refuse de voir sa fille traitée comme la bonne à tout faire de ce simple mortel, et donc elle va s'acharner à vouloir montrer à Samantha l'erreur qu'elle a faite en épousant cet être inférieur, et se lance dans diverses manigances pour ensorceler Jean-Pierre. Donc je pense que c'est une série que t'as vue, David.
Oh que oui.
Eh bien, tu vas nous en passer le générique. Les héros principaux, les acteurs qui les interprètent. Alors, Elizabeth Montgomery, doublée par Martine Sarcey, qui est une actrice qu'on a vue dans pas mal de séries télé françaises. Donc, c'est Samantha Stephen, jeune sorcière et femme au foyer, qui donc a épousé Jean-Pierre, un mortel. Elle doit le défendre contre les autres sorciers qui refusent de la voir, bien sûr, mariée à ce mortel, en particulier, comme je disais tout à l'heure, sa mère Andorra, et on verra qu'il y aura plus de friction entre le gendre et sa belle-mère. Elizabeth Montgomery joue aussi Pandora Spox à partir de la saison 6. Alors, elle joue donc Serena, la cousine et sosie de Samantha, et elle aussi, bien sûr, en tant que sorcière, n'aime pas Jean-Pierre. Tu peux nous parler de Jean-Pierre ?
Alors, il y a Dick York, qui est joué par Jean-Pierre Stephens, Darin dans la version originale, des saisons 1 à la saison 5. C'est un employé dans la compagnie publicitaire McMahon et Tate. Il subit aussi sans cesse les offenses de sa belle-mère, qui lui joue des tours dans son travail et sa vie de couple. Il y a aussi Dick Sargent, qui a joué aussi Jean-Pierre Stephens, des saisons 6 à 8. C'était le petit remplaçant.
Oui, parce qu'on verra dans les anecdotes que le malheureux Dick York a eu des gros problèmes de santé
ouais.
Et qui l'ont obligé ensuite à changer de héros principal. Ensuite, on a Agnès Moorehead, qui est une actrice assez connue, qui jouera Andorra, donc la mère de Samantha, une sorcière particulièrement performante et retors, car elle est beaucoup plus expérimentée. Alors elle est hautaine, fière d'elle, et elle déteste les mortels en général. Donc c'est ce qui fait que le pauvre Jean-Pierre en voit de toutes les couleurs. On a David White qui joue Alfred, alias Larry, dans la version originale Tate, le patron de Jean-Pierre, qui est l'adjoint de McMahon, mais c'est aussi surtout le meilleur ami de Jean-Pierre. Et on le voit souvent être invité à la maison, ou les Stephens être invités chez Alfred.
Il y avait aussi Erin Murphy et Diane Murphy qui jouaient Tabatha Stephens. Et c'est la première enfant de Samantha et Jean-Pierre, née au cours de la saison 2, épisode 19 d'ailleurs. On apprendra ensuite qu'elle est en fait une sorcière aussi. Il y a aussi Maurice Evans qui joue Maurice, le père de Samantha et mari d'Andorra. Il paraît plus souple qu'Andorra, bien qu'il ait voulu supprimer Jean-Pierre lors de sa première visite.
Oui, donc quand même. Mais bon, lui, après, il accepte. Bon, il adore sa fille, donc il accepte petit à petit qu'elle soit mariée avec un humain. Ensuite, on a Marion Lorne qui joue Tante Clara. Alors, c'est la plus âgée des sorcières de la série. Ses pouvoirs vont s'affaiblir avec le temps, ce qui fait que Elle fait beaucoup de gaffes, elle rate ses tours des fois, donc c'est assez marrant. Elle provoque plus de catastrophes que de magie. C'est la seule sorcière qui a accepté Jean-Pierre et puis qui le respecte quand même un peu. Mais bon, bah, comme je disais tout à l'heure, sa maladresse due à sa vieillesse va parfois jouer des mauvais tours à Jean-Pierre malgré elle et Samantha. Et donc, elle passe aussi son temps avec une drôle de collection. Elle collectionne les poignées de porte et elle est obsédée à tel point qu'elle vole les poignées de porte de toutes les maisons qu'elle visite. Donc vous imaginez.
Original.
Voyez ce que ça peut donner.
Alors il y a aussi les Kravitz, et non, c'était pas Lenny, mais c'était les voisins des Stevens qui complètent les personnages récurrents de la série. Si Monsieur Kravitz, en fait, est un homme tranquille et blasé de la vie de couple avec Charlotte, donc Gladys dans la VO, sa femme, par contre, est une vraie commère et une espionne invétérée qui s'obstine aussi à vouloir prouver que Samantha Stephens est une sorcière. Mais la pauvre femme passe donc pour une folle aux yeux de son mari, qui trouve donc le couple Stephens des plus adorables et des plus ordinaires.
Oui, elle c'est la commère. En fait, elle a raison, puisqu'elle voit vraiment ce qui se passe, mais à chaque coup, elle appelle les voisins, les policiers, tout le monde, mais à force, ils la prennent vraiment pour une zozo, et alors qu'en fait, c'est...
C'est la réalité.
Et puis, on va retrouver Bernard Fox, qui joue l'espèce de docteur spécialiste des maladies des sorciers, le fameux docteur Bombay. Alors lui, c'est un personnage, il apparaît de façon récurrente, et à chaque coup, il utilise des méthodes, disons, peu orthodoxes. Alors, les anecdotes autour de la série, il y en a un paquet, et je pense que tu vas nous en donner quelques-unes, David.
Le générique animé a été créé par Anna Barbera Productions, les créateurs de Pierre à Feu, des Jetsons ou de Scooby-Doo.
Et donc, on voit bien, oui, le style du générique, c'est très, très cartoons. Et en effet, ça rappelle un peu Scooby-Doo quand on voit, la blonde Daphné, ouais. Tout ça, ça rappelle un peu cet univers-là. Et donc, pendant les 6 premières de la saison, à peu près toutes les voitures qu'on voit dans chaque épisode sont des Chevrolet. Oh, c'est pas un hasard, c'était un des sponsors de la série.
La voisine Charlotte Kravitz est devenue tellement populaire que son nom, Gladys, donc en VO, est rentré dans le langage courant aux États-Unis quand on veut parler d'une voisine, d'un voisin ou un collègue encombrant.
Une bonne pipelette, c'est une Gladys.
Ok.
Jean-Pierre, en version originale, s'appelait Darin, a été prénommé James au Brésil parce que Darin sonne comme un prénom féminin au Brésil et est difficile à prononcer en portugais.
Et oui, ça picolait sec sur les tournages, et oui. Que ce soit au niveau des acteurs, actrices ou membres de l'équipe de tournage, à tel point que dans certaines scènes, certains sont déjà sous et que ce qu'il y avait dans leur verre à l'écran était bien de l'alcool. Ils essayaient même de faire un effort, par contre, quand des enfants étaient sur le plateau. Tout le monde fumait aussi comme des pompiers. La série a la réputation d'avoir été maudite, beaucoup d'actrices et d'acteurs étant morts avant 65 ans, comme donc Elisabeth Montgomery, qui est morte à seulement 62 ans.
Voilà, une série un petit peu maudite, hein. Comme quoi, quand on fait des films de sorcières ou des séries de sorcières, ça porte pas forcément chance. Et puis, comme on l'a dit, tu l'as si bien dit à l'époque, tout ce qui était la ligue contre l'alcool et la fumée, c'était pas interdit comme maintenant. Heureusement, ils ont fait des progrès à ce niveau-là, mais j'imagine l'ambiance qu'il devait y avoir avec des gens qui tournaient en état d'ébriété. En 2005, une statue en bronze d'Elizabeth Montgomery en Samantha a été érigée à Salem, Massachusetts, la célèbre ville, pour le procès des sorcières de 1692. Comme quoi, cette série a vraiment marqué les esprits, un petit peu comme c'est à Philadelphie qu'il y a le Rocky, la statue de Rocky. La même chose pour Elizabeth Montgomery qui a sa statue à Salem.
Alors Jean-Pierre, ou bien Darin en VO, Stephens, le mari donc de Samantha, est interprété par Dick York lors des 5 premières saisons de Ma Sorcière Bien-Aimée, comme je l'ai dit tout à l'heure. À partir de la saison 6, le personnage a été recasté et c'est alors Dick Sargent qui lui a succédé dans le rôle. Or, il semblerait que ce dernier était le premier choix des producteurs pour incarner en fait Jean-Pierre. Un autre acteur fut aussi envisagé pour jouer le mari de Samantha, il s'agit de Richard Crenna.
Alors, Richard Crenna, qu'on a pu voir dans de nombreux polars et de nombreux westerns. Et c'est marrant de voir que le remplaçant, en effet, était celui qui a dû jouer le rôle pendant toute la série. Que serait Ma Sorcière Bien-Aimée sans le fameux mouvement de nez de Samantha ? Donc, la sorcière jouée par Elizabeth Montgomery est en effet connue pour remuer le nez à chaque fois qu'elle va lancer un sortilège. Un geste qui n'a pas été choisi au hasard. Elizabeth Montgomery et son mari William Asher, qui officiait comme réalisateur sur Ma Sorcière Bien-Aimée, cherchait une idée de geste pour que Samantha lance un sort dans la série. Alors Asher a fait remarquer à son épouse que son nez bougeait d'une certaine façon lorsqu'elle était nerveuse. Et c'est là qu'est née l'idée de ce geste symbolique.
Les répétitions pour l'épisode pilote de Ma Sorcière Bien-Aimée étaient supposées démarrer le 22 novembre 1963, mais ont été donc reportées à cause de l'assassinat du président américain John Fitzgerald Kennedy ce jour-là. D'autant plus que l'actrice Elizabeth Montgomery et le réalisateur Bill Asher étaient amis avec les Kennedy.
Et ouais, c'était des grands amis des Kennedy, donc ça les a touchés. Et donc la série a été reportée assez longtemps, justement pour faire le deuil. Et puis, bon, c'est vrai que c'était dur de lancer une série à ce moment-là. Alors, si certaines séries ont un budget en mode très important, ce fut pas le cas de Ma Sorcière Bien-Aimée, à tel point que des acteurs, et notamment les actrices, y compris la star de la série Elizabeth Montgomery, apportaient leurs propres vêtements sur le tournage, et ceux-ci étaient utilisés pour les besoins du show. Donc, c'est vrai que c'est d'habitude quand on voit les toilettes, garde-robe et compagnie, non, là, c'était les acteurs qui venaient avec leur tenue. Bon, ils étaient peut-être plus à l'aise pour tourner aussi.
C'est sûr. Elizabeth Montgomery est donc la seule dans les 254 épisodes que compte la série. À titre de comparaison, Agnès Moried, Endora, est présente dans 147 épisodes. De plus, si l'on additionne le nombre en fait, d'épisodes où apparaît Dick York et le nombre d'épisodes où apparaît Dick Sargent, on arrive à un total de 240.
Dans les deux premières saisons tournées en noir et blanc, l'entrée de la maison des Stephens est ornée d'un imposant chandelier à 7 branches. Il sera remplacé par un tableau par la suite. Donc, petit changement de décor.
Et après leur colorisation, dans ces deux premières saisons, la proportion de personnages aux yeux bleus, d'un bleu des mers du Sud, est étonnamment élevée, ainsi d'ailleurs que les objets de cette couleur, mobilier, téléphone, vaisselle, automobile ou encore plein de vêtements.
Donc pour voir qu'on a passé à la couleur, on avait vraiment passé au bleu. C'est pas les Schtroumpfs, mais c'était la sorcière bien-aimée. Presque chaque épisode se termine par un baiser entre Jean-Pierre et Samantha.
Et aussi pendant la grossesse d'Elizabeth Montgomery, deux épisodes de la saison 1 ont été remontés, puis réutilisés en fait en saison 2. J'ai vu le Père Noël bénéficie donc d'un doublage propre, totalement différent de l'épisode 15. En revanche, la rencontre n'a jamais été doublée et reste à ce jour le seul.
Donc, si vous le voyez, vous ne le verrez jamais en version française, seulement en version originale. En version française, les prénoms et noms de plusieurs personnages ont été francisés. Comme on le disait tout à l'heure, Darin Stephens devient Jean-Pierre Stephens, Larry Tate est nommé Alfred Tate, alors que Larry, ça veut dire Lawrence, ou Laurent en français, alors que les voisins Abner et Gladys Kravitz deviennent Albert et Charlotte Kravitz. En revanche, le nom de Tabatha Stephens est simplement prononcé à la française. Dans les crédits américains, l'orthographe est modifiée en Tabitha à la saison 5. Dans un des épisodes, on voit même un mobile au-dessus du lit de la petite fille constitué des lettres T-A-B-A-T-H-A. Donc, prononciation à l'anglaise, à la française et écriture à l'anglaise.
Et oui. Selon William Fogg, le producteur de la saison 3 de la série, Elizabeth Montgomery ne pouvait plus supporter Dick York, qui était vraiment amoureux d'elle. Lors de leur première rencontre, elle lui a demandé de faire ce qu'il pouvait pour qu'il quitte la série.
Et en fait, on verra dans les anecdotes que c'est pas elle qui est à l'origine de son départ, mais bon, elle, elle le souhaitait fortement. Donc, Elizabeth Montgomery a été la première actrice de télévision américaine à avoir dormi dans le même lit à l'écran avec un homme qui n'était pas son mari dans la vraie vie. Vous imaginez le scandale.
Ouais. Ce pays qui est puritain, dit puritain.
Pour des sorcières, en plus, c'est pas mal.
C'est ça. Le personnage de Serena, qui était joué donc par Elizabeth Montgomery, était crédité dans le générique sous le nom d'actrice Pandora Spox. Un jeu de mots qui fait référence à la boîte de Pandore, Pandora's Box. Et oui, et pas Monsieur Spock.
Eh oui, mais Spock. Au départ, je pensais aussi, mais après, j'ai vu le jeu de mots, pas mal joué. Après la cinquième saison et la fin du contrat initial, Elizabeth Montgomery a annoncé son envie d'aller voir ailleurs. Mais la chaîne avait tellement besoin d'elle que l'actrice a obtenu un contrat qu'elle n'a pu refuser, incluant, entre autres, des parts dans l'exploitation de la série. Elle s'est fait des millions, mais ça se sentait qu'elle n'était plus vraiment impliquée dans son rôle pendant les trois dernières saisons. Donc, business quand tu nous tiens.
Money, money, money. Pardon. Les extérieurs de la série furent tournés dans l'un des studios en plein air de la Warner, appelé le Ranch, qui appartenait précédemment à la Columbia. Ce studio se situe donc dans le centre de Burbank, en Californie, et reproduit une rue américaine avec différents types de maisons. Il y a celle des Stephens, sorte de coquille vide qui ne comporte que la façade, avec son toit incliné et derrière une sorte de petit garage de 3 mètres de profondeur. Et qui est terminée par un simple mur droit en brique qui monte jusqu'au demi-toit. Elle fut accolée à un garage préexistant du temps de la Columbia. La maison des Kravitz ne se trouve pas en face de l'autre côté de la rue, mais quelques maisons plus bas, du même côté. Donc en face de la maison des Stevens, si vous me suivez toujours, il y a juste un parc et une piscine en plein air qui va servir de lieu de tournage pour nombre de séries. Quelques façades sont célèbres, citons par exemple celle qui fut utilisée pour la demeure d'Ewing dans Dallas. Les extérieurs de la série légendaire Friends furent également tournés dans ce studio qui comporte, dans un parc recréé, la fameuse fontaine apparaissant dans le générique.
Comme vous voyez, les Américains sont les rois du recyclage.
Bah là oui, parce que de cette époque-là, pour que ça arrive à Friends, hein,
voilà.
Il faut...
Alors, deux doublages différents étaient réalisés pour Ma sorcière bien-aimée. L'un, sans rire enregistré, était destiné au pays francophone européen. L'autre, avec les rires, mais gardant les mêmes voix françaises, destiné au Canada francophone. C'est vrai que c'est assez casse-pied, ces rires, j'ai horreur de ça. À partir de 92, suite à la première restauration de la série, sous la houlette de son coproducteur historique Danny Arnold, M6 a choisi de diffuser, selon les épisodes, la version dont la qualité sonore était la meilleure. Donc, on peut entendre des moments les rires et d'autres pas de rire. En 2003, avec la colorisation des deux premières saisons, un important travail de restauration sonore a été effectué à partir des bandes magnétiques. Restauration qui ne concerne que les deux premières saisons, ainsi qu'une poignée d'épisodes couleur.
Et à la suite, en fait, de son accident sur le tournage de ceux de Cordura, en 1959, Dick York souffre de maux de dos chroniques. Son état s'aggrave au cours de la saison 5 et la production écourte sa prestation. Dans un premier temps, Jean-Pierre part en voyage d'affaires au début d'un épisode pour ne revenir directement qu'à la fin. Puis il apparaît allongé sur le canapé. À la suite d'une forte baisse d'audience, la production décide finalement de remercier Dick York et de le remplacer à partir de la saison 6, donc par Dick Sergeant, qui avait refusé le rôle aux prémices de la série et finalement recruté. Les producteurs comptent sur sa ressemblance avec York pour faire passer la pilule. Cependant, son approche différente du rôle de Jean-Pierre ne permettra pas à la série de faire remonter les audiences.
Mais c'est vrai qu'ils se ressemblent énormément. Ces deux
ouais, mais changer, tu peux mettre deux personnages qui se ressemblent beaucoup, changer.
Ah mais c'est dur. Hein.
C'est ce qu'on avait dit. Hein,
Spartacus,
changer vraiment un personnage principal, c'est compliqué.
C'est compliqué parce que les gens, oui, ils sont mis le visuel, même si c'est...
Mais même les voix, ouais. Même en doublage. Hein, ouais. Exemple, il y avait Friends tout à l'heure, on parlait de Friends. Dans Friends,
les
trois dernières saisons, c'est la voix de Rachel et la voix de Chandler sont changées, ça casse tout. Quoi.
Et peut-être que c'est Elizabeth Montgomery qui avait jeté un sort sur le film de ceux de Cordura, puisqu'elle voulait absolument se séparer de Dick York. Alors, mais Jean-Pierre n'est pas le seul à changer de visage au cours de la série. C'est également le cas de Charlotte Kravitz. Alice Pierce décédera en 66 alors que la saison 2 est encore en cours de diffusion. Et Sandra Gould va la remplacer à partir de la saison 3. Au même moment, Irene Vernon va céder sa place à Cassie Rogers pour le rôle de Louise Tate.
Agnès Moret, qui jouait la belle-mère Andorra, a eu une carrière exceptionnelle en dehors de la série. Elle a joué notamment dans Citizen Kane en 1941, Jane Eyre en 1947 avec Orson Welles et Les Passagers de la Nuit en 1947 avec Humphrey Bogart et Lorraine Bacall, rien que ça. Elle a aussi joué plusieurs pièces à succès à Broadway et a reçu de nombreuses nominations. Dans la catégorie série, elle joue aussi la vieille femme envahie dans sa maison isolée par des petits extraterrestres dans la quatrième dimension, saison 3, épisode 3.
Donc c'est quelqu'un qui a en effet eu une carrière longue et puis...
Bien remplie,
prestigieuse. L'actrice qui a le plus réussi dans cette série, donc on connaît une carrière beaucoup plus resplendissante que ses petits camarades. Alors le succès de Ma sorcière bien-aimée a poussé NBC, la chaîne concurrente d'ABC, à lancer sa propre série dont le personnage principal serait doté de pouvoirs surnaturels. Ainsi est née la série Ginny de mes rêves en 65. On en parlera un petit peu plus tard. Il existe de nombreux points communs entre les deux séries. Le générique sous forme animée et la musique du même style. Des personnages centraux, Samantha et Ginny, toutes deux blondes, essayant l'une sorcière, l'autre génie, de s'adapter à un monde de mortels, partenaires bruns et mortels. Les similitudes se retrouvent jusque dans le décor, puisque les deux séries étaient tournées à Hollywood dans les mêmes studios, et oui. Ainsi, la cuisine d'Alfred et Louise Ted dans l'épisode La Cousine Hippie est exactement celle du Major Nelson dans les épisodes de Ginny de mes rêves. De même, l'extérieur de la maison du Major Nelson est identique à celle des Kravis, les voisins de Samantha. En outre, dans les deux séries, les intrigues découlent souvent de la confrontation entre le monde des mortels et des surnaturels, les effets d'un sortilège ou d'un tour mal géré. On retrouve vraiment le même gimmick, ce qui n'a rien d'étonnant puisque certains scénaristes ont signé des scripts pour les deux séries, notamment James S. Anderson, Ron Friedman, Peggy Chandler Dick, Douglas et Dick et John L. Green, ces derniers ayant également signé plusieurs épisodes de Mon Martien Favori, dont les intrigues sont recyclées pour Ma sorcière bien-aimée et Jimmy de mes rêves. Donc, on voit que des fois, on dit maintenant que les séries sont un peu copiées ou les remakes, ça se faisait déjà à l'époque. Hein. En dépit des similitudes, Ma sorcière bien-aimée va demeurer quand même plus célèbre que sa rivale encore aujourd'hui et obtient au moment de sa première diffusion aux États-Unis une audience supérieure. Ainsi, pendant la saison 65-66, par exemple, Ma sorcière bien-aimée se classe en 7e position avec 25,9% des audiences, alors que la série concurrente Ginny de mes rêves n'occupera, elle, que la 27e avec 21,8. Ah donc, oui. Voilà.
Il n'y a pas match. La série invitait fréquemment des acteurs plus ou moins connus pour le rôle des clients de l'agence de publicité McMahon et Tate, acteurs qu'on retrouve également en tant qu'invités dans plusieurs autres séries à l'époque, telles que Ginny de mes rêves, Max la menace...
qui était une série où on trouva le fameux Max qui jouait le fameux agent du chaos ou contrôle.
Le prisonnier, dans les rôles du numéro 2, ou bien quelques années auparavant dans la quatrième dimension. À propos de cette dernière série, Dick York joue un premier rôle de Dr. B. Poole dans l'épisode « Un sou pour vos pensées ». En février 1961, alors qu'Elizabeth Montgomery tient le rôle principal aux côtés de Charles Bronson dans « 2 », le premier épisode de la troisième saison en septembre 1961, et Agnès Moorehead, l'unique rôle de l'épisode « Les envahisseurs », épisode 15 de la saison 2 en 61.
Donc à l'époque, les gens des séries faisaient plusieurs séries à la fois, ça ne gênait pas. Maintenant, c'est vrai qu'en général, ils attendent d'avoir fini une série pour passer à une autre série. Ouais. Pour s'identifier, on identifie souvent...
Et puis il y avait même des acteurs qui faisaient les 4-5 premiers épisodes d'une série, qui étaient pris par une nouvelle série qui avait l'air mieux et qui partaient. C'était un bazar.
Et puis à l'époque, il y avait bien une séparation entre les acteurs de la télé et des séries et les acteurs du cinéma. Alors que maintenant,
tout est mélangé.
C'est perméable et tant mieux. Un grand nombre d'Américains nés entre 66 et 67 sont prénommés Tabata ou Samantha en raison de l'immense succès qu'avait rencontré la série. Donc on n'a pas attendu d'avoir les Kevin, les Dylan de Beverly Hills. Déjà à l'époque, ça frappait fort.
Le thème musical et l'univers de la série sont souvent utilisés encore récemment dans les années 2000 au cinéma, à la télévision et dans la publicité. Citons par exemple l'utilisation du thème musical pour la promotion des plumeaux de la marque Swiffer en septembre 2005 ou en sonnerie du téléphone portable de Nathalie Baye dans le film Passe-Passe dans lequel Edouard Baird est d'ailleurs prestidigitateur.
Tante Clara sera présente jusqu'à la saison 4. L'actrice, bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, décédera pendant le tournage de cette saison. Les saisons suivantes, Esmeralda prendra la place de Tante Clara dans un style un peu différent, un peu allumé aussi, mais un peu moins que Tante Clara.
Les actrices Alice Pierce et Marion Lorne, qui jouaient respectivement Charlotte Kravitz et tante Clara, ont reçu chacune un Emmy à titre posthume. Alice Pierce a joué pendant 2 saisons, mais est décédée donc d'un cancer des ovaires, et Marion Lorne, qui a joué dans L'Inconnu du Nord Express de Hitchcock aussi, a succombé à une crise cardiaque seulement 10 jours avant la cérémonie des Emmy, et Elizabeth Montgomery a reçu le prix en son nom. Oui, cette série était vraiment maudite. Hein.
Oui. Et quand même un Emmy Award en 66 de meilleure direction d'acteur pour William Asher, le mari d'Elizabeth Montgomery. La société américaine Ideal Toy Company va sortir en 65 une poupée mannequin de 31 cm qui représente Elizabeth Montgomery alias Samantha, donc ce qui prouve que même les enfants étaient séduits par cette série.
Et en 2014, la chaîne NBC avait déclaré la mise en place d'une suite à la célèbre série Ma sorcière bien-aimée pour ses 50 ans, qui mettait en fait en avant la petite fille de Jean-Pierre et Samantha Stephens, qui aurait eu pour nom Daphné, mais le projet n'avait pas abouti. On peut aussi trouver donc une bande dessinée Bewitched en 1965 jusqu'à 1969. Et c'est une adaptation de la série télévisée en comics par Dell Publishing.
Et bien sûr, en 2021, Sony Pictures Studio annonce la mise en chantier d'une nouvelle adaptation au cinéma qui serait fidèle à série culte. Ce film écrit par Thierry Matalas et Travis Pickett, le duo qui était derrière 12 Monkeys, l'adaptation en série de L'Armée des Douze Singes. Eh bien, si tu nous passes un petit extrait de la série pour que les acteurs entendent Ma sorcière bien-aimée.
On verra pas le petit...
Le petit nez qui bouge.
Le petit nez qui bouge. Hein. Et puis avec les masques, c'est encore...
J'ai réfléchi, j'ai tourné et retourné tout ça dans ma tête. Et j'ai pris une grave décision. Celle de te garder, chérie, parce que je t'aime.
Jean-Pierre, oh, je serai la femme la plus aimante qui ait jamais existé.
J'en suis persuadée. Et si tu le veux, nous mènerons l'existence la plus normale et la plus heureuse, sans petit tour.
Hein? Oh non, non, ça je te le promets.
Ça ne sera pas facile, tu sais. Ne perds pas de vue que tu épouses non seulement un type qui fait de la publicité, mais qui habite en banlieue, un petit appartement où il y a tout à faire.
Mais je m'en charge, tu peux être tranquille.
Il faudra te mettre à la cuisine. Mm-hmm. Et au ménage. Mm-hmm. Et il y aura ma mère aussi, qui viendra dîner tous les vendredis soirs.
Oh, chérie, tout cela est merveilleux. Bientôt, nous formerons un couple normal, un couple sans aucun problème, comme n'importe quel autre. Et je dirai à ma mère de venir passer quelque temps chez... Oui, enfin, on verra. Il vaut mieux procéder graduellement pour ces choses-là. Oh, j'essaierai, chérie. Je te promets que j'essaierai.
Je suis bien content que ce soit réglé. Si on arrosait ça...
Un petit martini sec?
Oui, chérie, avec une paille.
Comme je le fais d'habitude.
Ah non, comme les autres le font. Il n'y a plus à reculer à présent. Bon, donc ma femme est une sorcière. Et alors? Il faut bien qu'un mari passe sur les petits défauts de sa femme.
Alors, le plus, c'est les originalités de la série. Ben, j'ai mis que c'est une série familiale. Et ça, c'est un grand avantage de pouvoir tous ensemble regarder, aussi bien les enfants. Le fait qu'il y ait des enfants aussi, je pense à la petite Tabata, on peut s'identifier, entre guillemets, surtout le monde de la magie. En plus, c'est pas trash, déjà pour l'époque, même si on a vu que Léoff, c'était pas mal. Hein, mais c'est maintenant, par les anecdotes, qu'on apprend qu'il buvait beaucoup, mais quand on voit la série, on s'imaginait pas tout ça. Hein. J'ai mis un bon mélange d'humour et de fantastique pour l'époque. Il n'y avait pas des gros effets. On a pu voir qu'au niveau des finances, c'était pas trop ça, mais ça passe bien pour ces années-là. Et même encore, ça passe, c'est sympa comme série. Et puis, des seconds rôles assez sympathiques, hein. Les Kravitz en particulier, et puis le docteur Bombay, Andorra, là, qui est vraiment Agnès Moret, qui est parfaite, en belle-mère casse-pied, Maurice qui est assez rigolo. Donc voilà, on a une bonne petite série. Je sais pas si tu vois d'autres choses, de tes souvenirs.
Ouais, ce que je trouvais positif, ça enlevait aussi beaucoup le côté noir et négatif des sorcières.
Oui, tout à fait. C'était...
C'est, voilà.
C'est pas l'ambiance film d'horreur.
Gothique, voilà. Sombre. Voilà.
Lis-moi la série, mais bah, j'ai mis moi la version doublée avec les rires. En effet, j'ai vu quelques épisodes. J'ai toujours du mal avec les rires forcés.
Ah, ça a toujours été, toi. Dans toutes les séries, oui, tu me le dis.
Oui, mais moi, les rires, c'est pas notre culture. Quand on a envie de rire, bah, moi, je ris quand j'ai envie de rire. Bah, si c'est pas drôle, je ris.
Là, alors, oui, non, mais oui.
Ça fait un petit peu rire forcé et pas naturel. Et moi, j'aime bien ce qui est naturel. Voilà, c'est la petite critique pour cette série. Bien gentillette, mais qui encore passe régulièrement sur les écrans. Donc, c'est aussi une série culte, c'est pour ça que c'est intemporel, parce que plusieurs générations ont pu le voir. Alors, si vous avez aimé, comme d'habitude, bien sûr, on va vous proposer des petites choses, parce que on sait que cette série, justement, elle a été copiée, on a pu le voir, mais jamais y aller. Alors, en 77, Tabata, une série dérivée de La sorcière bien-aimée, et l'héroïne, c'était la petite fille. En 2005, eh bien, le film Ma sorcière bien-aimée, avec Nicole Kidman, Will Ferrell et Shirley MacLaine, pour les rôles de Samantha, de Jean-Pierre et d'Andorra. Qui a eu un succès moyen, on peut le dire. C'est pas les gens qui adoraient la série n'ont pas forcément aimé spécialement le film. Le dessin animé de 72 où Tabitha and Adam and the Clown Family, produit par les studios Anna Barbara Productions, normal, hein, ils avaient fait le générique, donc ils avaient envie derrière.
Normal.
Bien sûr, bah, charme, si vous voulez. Mais là, c'est un peu plus. Tu parlais de un peu plus gothique. Bon, bah là, c'est le cas. Hein, c'est les sorcières un petit peu moins glamour. Les sorcières d'Eastwick avec Jack Nicholson, Suzanne Sarandon et Michel Pfeiffer entre autres. Donc là, ça déménage bien. Et c'est plutôt oui des sorcières. Il y a du comique, mais bon, on a quand même le diable. Et puis Ginny de Mereb, la série télé concurrente dont on a parlé. En 97-2003, il y a Sabrina l'apprenti sorcière. Bon, ça c'est pour les plus jeunes. Et puis Free Spirit, une série télé de 89 à 90. Une série où on retrouvait Alison Hannigan, qu'on pouvait voir entre autres dans Buffy contre les vampires, et puis surtout dans la série...
Hawaii Met Your Mother.
Non, American Pie, dans la série des American
et
Pie.
Et dans Hawaii Met Your Mother,
oui,
où a joué
aussi,
Lily,
aussi,
parce qu'elle jouait un personnage principal en plus.
Voilà. Mais bon, ce qui a fait vraiment sa renommée, oui, c'est quand même...
American Pie, on est
voilà.
D'accord.
Alors...
La chose de flûte.
La fameuse chose de flûte. On va passer au coup de cœur des Cérébores. Eh bien, j'ai décidé, pour une fois, de parler du concurrent, Ginny de mes rêves, Dream of Ginny en version originale, donc la série qui concurrençait La sorcière bien-aimée, une série de 1965 qui a été créée par Sidney Sheldon. On a quand même 139 épisodes de 26 minutes, c'est 5 saisons, et ça sera Barbara Hayden et surtout Larry Hagman. Ça te dit peut-être quelque chose.
Eh oui, c'est J.R.
Eh oui, J.R. dans Dallas, eh bien, il a commencé dans une série de sorcières.
Ah oui.
Et c'est lui qui jouait...
Mais ça fait bizarre quand tu t'imagines une personne à ce qu'il joue.
Et Larry Hagman jouait l'équivalent de Jean-Pierre, puisqu'il jouait Anthony Nelson. Alors l'histoire, c'était l'astronaute Anthony Nelson qui va découvrir une bouteille au fond des mers dans laquelle vit un génie qui n'est autre qu'une authentique princesse des mille et une nuits, Ginny, âgée de 2000 ans. Aussitôt libérée, elle tombe amoureuse de l'astronaute qui l'emmène chez lui. Cela va rapidement être une source d'ennui pour l'astronaute qui lui faut, bien sûr, cacher à tous l'existence de Ginny. Donc, on a vu, hein, les thèmes sont assez similaires. On retrouve... Oui. J'ai fait une petite faute, hein, j'ai dit au fond des mers. Non, c'est au fond de l'espace. Parce qu'il faut rétablir la vérité. Et donc, voilà, donc on a un petit peu les mêmes sujets et on comprend que, comme aussi la science-fiction marchait bien à l'époque, on a essayé de chercher un thème, puisque c'était la conquête de l'espace, et un mélange de mille et une nuits, conquête de l'espace, ça donnait Ginny de mes rêves. Donc vous pouvez aussi trouver cette série, et puis comme ça vous pouvez faire la comparaison par vous-même. Bien quoi de mieux que de terminer par la musique du générique de Ginny de mes rêves.
Il était une fois une ville de légende que l'on nommait Cap Kennedy, d'où partit pour une mission spatiale un astronaute appelé Tony Nelson. Le missile s'éleva à une grande hauteur, mais à la suite d'un incident technique, on dut le faire redescendre. Le capitaine Nelson aborda dans une île déserte du Pacifique Sud, où il découvrit une bouteille, ou plutôt un récipient rappelant une bouteille, mais d'aspect assez particulier et d'utilisation tout à fait exceptionnelle, puisqu'il contenait un génie. Oh, pas le génie ordinaire et quotidien de tout le monde, mais un génie féminin extrêmement séduisant qui avait le pouvoir d'exaucer n'importe quel vœu. Ginny exerça son pouvoir pour permettre au capitaine Nelson de quitter l'île déserte. Il lui en fut si reconnaissant qu'il la libéra. Mais Ginny ne voulait pas être libre. Vous savez ce que c'est quand vous avez été enfermé dans une bouteille pendant 2000 ans. Elle voulait s'amuser. Et pas toute seule, mais en compagnie du capitaine Nelson. Aussi, elle le suivit à Cocoa Beach, ou ville des missiles, cité mythique s'élevant dans un lieu mythique appelé Floride. C'est là que la jeune fille à la bouteille se mit à faire tourner en bourrique son astronaute chéri.
Eh bien, fin de ce Sérivore. On vous retrouve bientôt sur Radioactive pour de prochaines aventures du petit écran. Bye bye.
Bye.
Série, maintenant choisissez votre camp.
Devenir un céréal lover
ou un céréal eaters.